Je l'ai connu parce que j'étais ambassadeur aux Nations Unies. On avait affaire à tous les mouvements de libération, que ce soit la SWAPO, que ce soit l'ANC. Il était souvent avec nous et c'est un homme de conviction. Et il avait du courage. Il disait franchement ce qu'il avait à dire. L'une des figures proues de la lutte pour la décolonisation. Comme dit l'adage, même si on n'aime pas le lièvre, il faut savoir qui fait courir. En tout cas, c'est une personnalité, un patriote, un défenseur des droits des peuples africains, un père, un grand homme. Il a été un key player pour non pas seulement le Zimbabwe, mais pour tous les mouvements de libération en Afrique australe. À l'époque, on était souvent avec lui, avec Makatini de l'ANC, Ben Gurira de la SWAPO, des figures vraiment qui ont fait la fierté de l'Afrique.
C'était quel genre de personnalité et comment ses pairs l'ont considéré?
Je ne dirais pas qu'il était craint, mais disons que sa voix comptait. C'est le seul qui n'hésitait pas à mettre les pieds dans le plat quand il fallait le faire. Je crois pour lui, la dignité de l'Afrique passait avant tout. L'honneur, la dignité de l'Afrique, je crois que c'était son credo et ça, c'est important parce qu'en fin de compte, ce sont des valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. Dans toutes les réunions, il ne passait pas inaperçu. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il a marqué son temps.
En ce qui concerne l'accord de Manchester House sur le financement de l'expropriation de la réforme agraire, les promesses britanniques non tenues.
Oui, c'est ce qui a motivé, disons, la nationalisation de toute cette propriété. Est-ce que ça a été une bonne chose? Mais en fin de compte, apparemment, les Britanniques étaient un peu responsables. Tout le monde dit que, bon, qu'en fin de compte, ils n'ont pas tenu leur engagement. On a vu les conséquences dommageables après pour le Zimbabwe. Donc, de part et d'autre, les responsabilités sont partagées. Du côté britannique, qui n'a pas créé les conditions pour que vraiment les choses puissent évoluer telles qu'ils avaient été planifiées. Et d'un autre côté aussi, bon, cette nationalisation des propriétés qu'on a donnée à des gens qui n'ont aucune culture de fermier. Donc, il y a eu des conséquences vraiment négatives sur l'économie du Zimbabwe. C'est dommage. Je crois que d'ailleurs, cela a servi d'exemple à la situation en Afrique du Sud. Ce sont des leçons qu'il faut tirer de tout ce qui a été fait de positif et de négatif.
Quelle aura été l'erreur, disons, de Mugabe?
C'est avoir nationalisé les terres des fermiers blancs et le donner à des personnes qui n'ont aucune connaissance d'agriculteur. On ne peut pas improviser, il fallait les former. Ça n'a pas été fait, donc ça a été une erreur. Sous Ian Smith, la Rhodésie du Sud était vraiment le grenier de l'Afrique. Avec l'embargo, avec les sanctions, Ian Smith avait vraiment développé une économie auto-centrée, autonome, dans tous les domaines. Donc ils avaient quand même un capital à hériter pour avancer. Donc malheureusement, les choix politiques n'ont pas été conséquents. Et ce sont des erreurs qui ont été commises. Bon, l'Afrique du Sud peut-être va inspirer dans le cadre de la promesse faite aux Noirs de leur accéder des terres. Mais je suis optimiste parce que je ne dirais pas que le malheur est bon, mais en fin de compte, il y a eu beaucoup d'exilés des Zimbabwe à l'extérieur et vraiment, je rencontre dans toutes les institutions internationales à droite à gauche beaucoup de Zimbabwe de qualité. Je suis optimiste parce qu'en définitive, disons, la qualité des ressources humaines du Zimbabwe est telle que je crois que ce pays peut se relever.